Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Elisabeth Moreno.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre premier grand jury. Et à mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion.
Bonjour.
Et Adrien Jeanne de TF1 LCI. Bonjour, bonjour Adrien. Bonjour. Cette émission est bien sûr en direct. Et vous pouvez interpeller notre invité à tout moment via les réseaux sociaux. Hashtag le grand jury et les questions lui seront relayées en fin d'émission dans Questions Nettes. Alors Elisabeth Moreno, ceux qui nous écoutent ou nous regardent vous découvrent peut-être pour la première fois. Totalement inconnue jusqu'à la nomination de Jean Castex en juillet dernier, vous êtes devenue à 50 ans le visage de la diversité dans ce gouvernement. Originaire du Cap-Vert, de parents modestes, analphabètes, et née d'une fratrie de 6 enfants, vous avez grandi dans une cité de banlieue parisienne. On vous propose une orientation en CAP, mais déterminée, pugnace, vous refusez net et vous vous orientez vers des études de droit avant de vous imposer dans le monde de l'entreprise au plus haut poste. La discrimination, Elisabeth Moreno, l'inégalité liée aux origines, au genre, à la couleur de peau, au territoire aussi, vous l'avez donc vécu au plus près. Aujourd'hui, vous avez pour mission de les combattre, ces inégalités. Mission d'autant plus délicate parce que d'une part les priorités sont autres en pleine pandémie, que votre prédécesseur, la très médiatique Marlène Schiappa, vient régulièrement marcher sur vos plates-bandes, et enfin parce que vous n'êtes pas du tout du sérail politique, Elisabeth Moreno. Vous parlez 5 langues, mais pas la langue de bois. C'est ce que vous avez dit, c'est la promesse que vous avez faite en arrivant dans votre ministère. Nous comptons donc sur vous aujourd'hui pour la proscrire ici, et les questions ne manquent pas. À la veille de la journée des femmes, nous allons longuement revenir sur l'égalité des droits. C'est donc parti pour votre premier grand jury, Elisabeth Moreno. Et la première question vous est posée par Marion Mourgue.
On sait que le confinement que la France a vécu a fait croître les violences faites aux femmes et les signalements. Est-ce que vous voyez le même phénomène depuis que la France est sous couvre-feu dans un certain nombre de départements, voire de confinement partiel?
Alors vous avez raison, en fait, on a constaté lors du premier confinement une augmentation de 42% d'intervention des forces de l'ordre pour les violences intrafamiliales. Il y a eu plus de 60% d'augmentation sur la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr qui est la plateforme destinée aux femmes qui sont victimes de ces violences. Et je précise que 20% des personnes qui contactent cette plateforme sont des enfants. Donc c'est vous dire combien ce fléau peut toucher pas seulement les femmes qui subissent ces violences, il y a aussi des violences causées aux enfants. Et donc, il était important pour nous, dès le début, de pouvoir mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour éviter que cela ne se reproduise lors du deuxième confinement, qui a été très différent, parce que les enfants pouvaient aller à l'école, parce que c'était beaucoup plus souple. Donc, oui, les violences ont continué d'augmenter, mais elles ont été moins dramatiques. Et je dois dire que toutes les mesures que nous avons mises en place, que nous avons travailler à la fois avec les associations, je veux nommer le 3919 qui est porté par la Fédération Nationale Solidarité Femmes, a fait un travail remarquable sur le terrain, et c'est un nombre incalculable d'associations qui sont sur tout le territoire, jusque sur les territoires ultramarins, dans les zones rurales, etc., qui étaient au front pour faire en sorte que les femmes qui avaient besoin d'une oreille attentive, pour les femmes qui ne savaient pas quoi faire, qui ne savaient pas comment fuir le domicile conjugal, puissent avoir une oreille attentive. Et puis, surtout, nous avons fait en sorte qu'il n'y ait pas besoin de certificat pour pouvoir sortir, parce que quand on est en danger, il ne faut pas qu'on pense au sujet administratif. Et je dois dire que j'ai le sentiment que, à la fois, les associations continuent de faire un bon travail, les entreprises s'emparent de ce sujet, parce que j'ai parlé à beaucoup de chefs d'entreprise.
Et vous avez parlé, pardon, madame la ministre, juste à l'instant, au passé, Marion le rappelait, on a encore aujourd'hui en France des mesures de couvre-feu, du confinement le week-end dans certains territoires. Est-ce que ça veut dire que cette phase extrêmement sensible pour les femmes est derrière nous, ou qu'elle se poursuit aujourd'hui et que les signalements se poursuivent dans les mêmes proportions?
Elle est permanente. Elle est permanente. Vous savez, en 2019, il n'y avait pas la crise sanitaire. Et en 2019, tous les deux jours, une femme mourait sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Il faut que tout le monde sache que cette question des violences intrafamiliales n'est pas née, malheureusement, avec la crise sanitaire. Mmh. Et tout le travail qui est fait depuis 2017, parce que je veux le préciser quand même, il a fallu attendre 2017 pour qu'un président de la République décide de faire de la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat, mmh. pour qu'on fasse un grand Grenelle qui a été lancé par Marlène Schiappa et le Premier ministre de l'époque, pour faire en sorte que les associations, les entreprises, les familles de victimes, les victimes elles-mêmes, se mettent autour d'une table avec 15 ministres, donc la mobilisation de tout le gouvernement, pour faire en sorte que nous travaillions à éradiquer ces violences.
C'est la grande cause, certes, mais Caroline De Haas, que beaucoup de ceux qui nous écoutent nous regardent connaissent, fondatrice de Nous Toutes, très militante, féministe militante, dit que la question des violences n'est pas la priorité d'Emmanuel Macron, que ça ne se ressent pas dans les budgets, notamment, de votre ministère. Alors, qu'est-ce que vous lui répondez ?
Alors, ce que je lui réponds, c'est qu'il faut regarder les faits, il faut regarder les actes. 46 mesures sont issues du Grenelle des violences conjugales, 46 mesures qui embarquent tout le gouvernement et toute la société. 100% de ces 46 mesures ont été engagées, 60% d'entre elles sont aujourd'hui effectives. Je parle du bracelet anti-rapprochement, je parle de l'augmentation de 60% des places d'hébergement pour accueillir les femmes qui ont besoin de fuir le foyer. Je parle du déblocage de l'épargne salariale pour permettre à ces femmes de se réinsérer dans la vie sociale correctement. Je parle de la garantie visale pour leur permettre de prendre un appartement. Alors, je veux bien entendre que ça n'est pas une priorité. L'une des premières choses que j'ai obtenues en arrivant, c'est 40% d'augmentation du budget de mon ministère pour pouvoir accompagner les associations, pour pouvoir aider
alors,
les femmes.
Alors, c'est contesté, si vous savez, par concret, le Sénat sur, le, sur les chiffres.
Non, attendez. Le Sénat ne conteste pas les 40% d'augmentation que j'ai obtenue pour le budget 2021. Il conteste la manière dont les chiffres ont été présentés auparavant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que jamais il n'y a eu autant d'argent dans ce ministère. Pour moi, ça n'est jamais assez, parce que tant qu'on n'aura pas tout réglé...
Est-ce que ça se traduit en termes d'effets, Madame la Ministre ? Par exemple, vous rappeliez les chiffres des années passées sur les féminicides. Est-ce qu'on peut déjà sentir une amélioration de la situation, une réduction du nombre de drames grâce aux politiques qui ont été entreprises ?
Monsieur Gindre, en 2019, il y a eu 146 féminicides. Mmh. En 2020... il y en a eu 90. Mmh. Un féminicide de... c'est toujours un féminicide de trop. Toujours. Mais pour la première fois depuis 2006, date à laquelle nous avons commencé à comptabiliser ces drames humains, eh bien, c'est la première fois que nous descendons en dessous de 100 pour être à 90.
Et depuis le début de l'année, oui. Vous avez déjà de premiers chiffres ?
Et depuis le début de l'année, nous avons des chiffres, mais vous savez, ce sont des choses qui prennent du temps à être considérées. Moi, je me souviens de... Je veux notamment mentionner la fin de l'année, avant de parler du début de l'année. Vous vous souvenez qu'à la veille de Noël, 3 gendarmes ont trouvé la mort parce qu'ils essayaient d'aller sauver une femme qui s'était réfugiée sur le toit de sa maison où son ex-mari avait mis le feu. Je veux que les gens comprennent que quand on parle de violence conjugale, ça n'est pas que des chiffres et des théories. Ce sont des vies humaines qui sont brisées à jamais. Ce sont des drames psychologiques qui vous poursuivent tout au long de votre vie, non seulement la victime, mais les enfants qui l'accompagnent. Et je veux, c'est pour ça d'ailleurs que je veux que toute notre société s'empare de cette question, pas seulement les associations, pas seulement, pas seulement les associations, pas seulement les entreprises que je remercie de le faire, pas seulement la justice, pas seulement les forces de l'ordre, mais que toute la société, une maîtresse qui voit une maman arriver avec son enfant à l'école avec un œil au beurre noir, elle ne peut pas fermer les yeux. Un voisin qui entend une femme qui se fait tabasser, il ne peut pas fermer ses oreilles. Et c'est toute la société qui doit se saisir de cette question, parce qu'une société avec autant de violence, eh bien c'est une société qui ne va pas bien.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir le soutien des ministres de l'Intérieur et de la Justice ? Quand vous êtes arrivé au gouvernement, vous avez dit dans une interview au Parisien que vous seriez le caillou dans la chaussure d'Éric Dupond-Moretti sur ces questions pour avoir son aide. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le sentez suffisamment au front pour vous aider sur la question de la violence faite aux femmes ?
Les forces de l'ordre, que je veux saluer, sont le premier rempart dans les violences conjugales. Et elles donnent de leur vie pour y parvenir. La justice n'a jamais autant travaillé sur cette question. Je vous parlais tout à l'heure des bracelets anti-rapprochement. Je ne vous ai pas parlé du nombre d'ordonnances d'éloignement qui ont été distribuées. On est passé à 5000 en deux ans.
Je parle du soutien politique aussi.
Le soutien politique est parfait. Il est totalement présent, que ce soit Éric Dupond-Moretti, que ce soit Gérald Darmanin, que ce soit Marlène Schiappa, qui connaît bien ces sujets parce qu'elle les a vécus à la place qui est la mienne aujourd'hui. Eh bien, tous les ministres dont j'ai besoin aujourd'hui, Emmanuel Wargon sur la question des places d'hébergement, et tous les ministres dont j'ai besoin, Jean-Michel Blanquer, parce que je pense qu'on va parler d'éducation, il faut savoir que ces violences existent parce que les jeunes garçons ne sont pas éduqués à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Je n'ai pas tous vos collègues, c'est interministériel.
Juste pour éclairer également nos téléspectateurs et auditeurs, on a été interpellés en préparant cette émission par un essai de l'historienne Lucille Pétavin, qui paraissait ces jours-ci, sur le coût de la virilité. Elle a tâché de mener une étude très complexe pour essayer d'estimer ce que coûtait à la France le comportement et les comportements les plus problématiques des hommes. Elle l'estime à 95 milliards par an. Elle met derrière ça le coût des drames, des infractions, de la prison, des réparations. Déjà, est-ce que c'est une analyse que vous partagez, qui vous paraît correspondre à la réalité? Et pour prolonger ce que vous disiez à l'instant, comment est-ce qu'on règle ça? Est-ce que c'est une question d'éducation, d'éducation par les parents, d'éducation par l'école, par la société?
Sur le constat d'abord.
Alors,
le
constat, évidemment qu'au-delà des vies qui sont prises de manière brutale et violente, bien sûr que tout cela a un coût pour notre société. Vous parliez tout à l'heure du budget de mon ministère. Vous vous doutez bien que tous les budgets ne sont pas au sein de mon ministère pour éradiquer ce fléau. Quand Olivier Véran débloque 5 millions d'euros pour faire en sorte que les femmes qui n'osent pas aller porter plainte au commissariat puissent le faire dans les hôpitaux. Quand on forme 53 000 policiers pour qu'ils accueillent mieux, qu'ils aient de meilleures écoutes et du temps avec ces femmes victimes de violences.
Mais justement, Isabelle, les 95 milliards, est-ce que vous reprenez ce chiffre à votre compte? Est-ce que vous dites oui, il y a un coût de l'expression de la vérité dans notre société qui peut correspondre à ce chiffre?
Je ne peux pas commenter les 95 milliards parce que je ne sais pas comment ils ont été comptabilisés. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un coût dramatique, humain et financier, des violences de cette société patriarcale qui ne considère pas que les femmes aujourd'hui ont la même valeur que les hommes et qui considère qu'ils peuvent les tuer plutôt que les laisser partir. Parce que c'est ça la vérité des violences conjugales. Il faut que je vous dise que quand un homme aujourd'hui tue sa femme, il ne la tue pas d'un coup de couteau ou d'un coup de pistolet. Il y a une rage pour faire disparaître ces femmes, ça va être 15, 20, 30 coups de couteau pour faire disparaître une femme simplement parce qu'elle vous dit « je veux te quitter, je ne supporte plus cette violence ». C'est ça la réalité des violences conjugales.
Mais c'est la société qui a introduit ces comportements. Ce que vous disiez à l'instant, une société patriarcale, est-ce que c'est une société patriarcale, sexiste, machiste, je ne sais pas quel serait le bon terme, qui amène à ces comportements?
Je veux que tout le monde comprenne que les violences sexistes et sexuelles tuent. Elles tuent physiquement. Elle tue mentalement, psychologiquement, elle tue les rêves, elle tue les ambitions, parce que là on parle malheureusement des vies qui sont prises, mais on ne parle pas de ces jeunes filles à qui on dit qu'elles ne peuvent pas faire tel métier ou tel autre. On parle de ces jeunes filles à qui on dit « mais pour qui tu te prends ? Reste à ta place, tais-toi, ne ris pas trop fort, ne parle pas trop ». Comment voulez-vous que 52% de la population, parce qu'il y a 52% de femmes dans cette population, comment voulez-vous que notre pays profite des talents, des savoir-faire, des capacités de ces femmes si on passe notre temps à leur mettre la tête sous l'oreiller?
Qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, il faut commencer par l'éducation.
Mais alors quoi? C'est les livres, les manuels scolaires qui ne sont pas à la hauteur?
Il n'y a pas que ça.
Donnez-nous un exemple concret de ce qui dysfonctionne aujourd'hui dans l'éducation nationale pour mettre un terme, pour remédier à cette société patriarcale que vous dénoncez.
Pardon, monsieur Sportouche, mais quand je parle d'éducation, je ne parle pas que de l'éducation nationale. Je parle de... Ça en fait partie, mais ça n'est pas que ça.
Oui, mais là où vous pouvez agir, c'est l'éducation nationale.
Permettez-moi de vous dire que j'ai rencontré des femmes qui étaient plus misogynes que certains hommes. Donc je pense que l'éducation, elle doit commencer dès la maison. Il faut qu'on se saisisse de cette question. Il faut qu'on détricote ce qu'on nous a appris pendant des millénaires. Il faut qu'on apprenne l'égalité dès le berceau. Moi, je crois que c'est une excellente chose qu'il y ait le congé.
Si vous dites que cette éducation ne va pas dans la famille.
Eh ben, prenons le congé paternité. Le congé paternité, certaines personnes ont considéré que c'est quelque chose de bien, mais ça ne va pas révolutionner le monde. Pardon, mais quand vous êtes un bébé et que tous les matins, quand vous vous réveillez, vous voyez votre maman parce que votre père est allé travailler, quand il rentre du travail, le bébé dort déjà, et qu'il ne le voit qu'une fois de temps en temps le week-end, eh bien, qu'est-ce qu'il intègre dans son esprit? Il intègre que ce sont les femmes qui doivent rester à la maison et s'occuper des enfants. Ça, ce sont des stéréotypes sur lesquels il faut travailler. Et c'est pour ça que ça fait des années qu'on parle des congés paternité et qu'on l'a enfin doublé en France et qu'on doit s'en réjouir.
Alors écoutez, juste attendez, pardon, Marion, on va justement, puisque c'est le thème de la question en plus qui vous est adressée aujourd'hui, vous allez l'écouter, par un papa qui demande plus. Écoutez.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour Madame Moreno, ici Alexandre Marcel, l'auteur du blog Papa Plume et du livre Je ne m'attendais pas à ça, sorti chez Larousse en début d'année. L'année dernière, on s'est battu avec un collectif de papas pour obtenir l'allongement du congé paternité, qui est un vrai levier de lutte contre les inégalités hommes-femmes. Maintenant, quand on sait que 70% des tâches domestiques et familiales sont encore réalisées par les femmes, moi je pense qu'un mois c'est pas suffisant et qu'il faut aller encore plus loin. Et je voulais avoir votre opinion là-dessus. Merci beaucoup.
Alors voilà, concrètement, est-ce que vous êtes pour Elisabeth Moreno, qui est un alignement entre le congé paternité et le congé maternité?
Alors, ça nous a pris des lunes pour arriver à le doubler. Vous savez, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'on ne l'a même pas encore mis en œuvre, que déjà, on dit « c'est pas suffisant là ». C'est un début.
Mais pourquoi,
à titre personnel, je pense qu'il faudrait aller plus loin, parce que ce congé paternité permettrait de soulager les femmes qui, pendant ces périodes de congé maternité, parfois sont en difficulté. On ne parle pas suffisamment du stress postpartum que les femmes subissent quand elles sont seules à gérer la maison, les enfants, le bébé qui vient de naître, etc. Elles aident aussi parce que les femmes peuvent comme ça retourner plus rapidement travailler.
Selon vous, il faut 3 mois pour le congé paternité.
Je pense que c'est déjà excellent que nous commencions par 28 jours parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui me disent « Mais Madame Moreno, comment on va faire ?» Moi, je me souviens quand j'étais dans le monde de l'entreprise, quand j'avais des managers qui venaient me voir et qui me disaient « Je viens d'avoir mon bébé et j'adorerais passer un peu plus de temps avec lui à la maison. » Aujourd'hui, avec ce doublement des congés paternité, on va pouvoir le faire. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin? Je pense qu'il faudrait aller plus loin. Mais Paris, c'est pas construit en un jour. C'est un très bon début et je pense qu'avec l'évolution des mentalités, déjà, il faut s'assurer que les pères qui ont la possibilité de prendre les congés paternité le fassent réellement. Et avec cette question patriarcale que nous traînons derrière nous, est-ce que tous les hommes vont se sentir suffisamment libres pour le faire? Commençons par cela, changeons les mentalités, les cultures, les entreprises, et ensuite nous y arriverons.
Dans l'égalité, il faut la politique des petits pas. Beaucoup de pays d'Europe du Nord sont dans un... Pourquoi se contenter d'un doublement et non pas d'aller plus loin? Mais vous nous dites que ça prend du temps. Voilà.
Parce que ça prend du temps. Attendez, excusez-moi,
est-ce qu'il ne faut pas être plus radical?
Voulez-vous que je vous dise quelque chose? La première loi en faveur de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, elle date de 1972. 48 ans après, il y a encore un écart de salaire entre 9 et 25% selon que l'on soit une femme ou un homme. Ça n'est pas un problème de loi. Les lois sont là pour la plupart du temps. Quand on met en place la loi de l'égalité professionnelle, les lois sont
là. On va en parler.
Qu'est-ce qui fait que 48 ans après, nous n'y sommes pas encore? Parce que les mentalités évoluent trop lentement, parce que ce sont encore les hommes qui décident sur les postes les plus stratégiques et qu'il faudrait justement équilibrer
les postes de pouvoir. Vous nous faites la transition pas parfaite. Juste avant de passer la parole à Adrien, est-ce que vous avez été victime personnellement, et on va venir à cet index homme-femme, d'une égalité salariale, pour dire les choses clairement, au poste de responsabilité où vous avez été avec un équivalent homme? Est-ce que vous avez été moins payé qu'un homme qui avait à peu près les mêmes fonctions que vous?
Alors, puisque vous me posez la question, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'ai créé ma propre entreprise parce que j'estimais que les propositions qu'on me faisait ne correspondaient pas à ce que je me sentais capable de faire. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous êtes en capacité de décider de ce que vous faites, même si j'étais moins payée parce que c'était ma propre entreprise et que quand vous créez une entreprise, vous n'allez pas vous faire des salaires mirobolants, mais au moins, je prenais la décision de le faire. Aujourd'hui, les écarts de salaire entre les femmes et les hommes dans notre société sont en moyenne de 15%, rien que parce que c'est une femme, parce que effectivement elle doit parfois s'arrêter pour avoir des enfants, parce que elle ose moins que les hommes demander des augmentations salariales. J'ai vu des femmes, des managers de mon équipe qui défendaient becs et ongles les augmentations de salaire de leurs collaborateurs, et quand elles parlaient d'elles, elles s'éteignaient et elles perdaient le courage de faire. 60% des femmes dans notre pays disent qu'elles manquent de confiance en elles, qu'elles manquent d'estime en elle. Comment voulez-vous, dans ce cas-là, avoir la force et le courage d'embrasser les métiers que vous voulez ou de demander les augmentations de salaire que vous voulez ? Et on en revient à cette question de patriarcat qui fait que c'est trop lent parce que ce sont encore les hommes qui décident.
Alors, on va parler de l'exemplarité en politique juste après, mais d'abord sur l'index.
Justement, parce que vous dites on est toujours trop pressé, on peut entendre cette critique que vous nous faites, mais il existe aujourd'hui...
Je n'ai pas dit qu'on était trop pressé. Pour moi, il faudrait accélérer par mille...
Je le prenais pour nous.
Mais bon.
des textes qui prévoient, on va reparler de l'index dans un instant, mais également la place des femmes dans les conseils d'administration et de surveillance. Oui. C'était issu du texte Copé-Zimmermann. Aujourd'hui, il y a la question d'une proposition de loi pour voir s'il faut ou pas, si on peut ou pas, élargir ces dispositions et ne pas se contenter des simples conseils d'administration et de surveillance, mais bien aller sur les comités exécutifs, de direction, etc. Est-ce que vous souhaitez qu'on aille demain également à 40% de femmes dans les postes de direction et les responsabilités exécutives des entreprises ?
Vous avez raison, pardonnez-moi, mais il faut que je revienne une petite seconde sur la loi Copé-Zimmermann. Quand elle a été...
Celle qui prévoit 40% de femmes minimum dans les conseils d'administration et de surveillance.
Exactement. Il y a 10 ans que cette loi a été votée. En 2009, il y avait moins de 10% de femmes dans les conseils d'administration dans les grandes entreprises françaises. 10 ans après, avec cette loi, on est passé à 45%. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi ? Elle dit que quand on veut, on peut. Mm-hmm. Pourquoi ça a fonctionné ? Parce qu'il y avait des sanctions fortes.
Et alors, est-ce que vous souhaitez la même chose ?
Et évidemment, alors moi, je laisse les parlementaires faire leur travail et j'ai toute confiance en eux. Je suis favorable à toutes les mesures qui vont démultiplier le nombre de femmes dans les conseils d'administration. Dans les conseils d'administration, c'est déjà fait, mais dans toutes les sphères décisionnelles de l'entreprise, pas pour faire joli, laissez-moi terminer, c'est important. Je veux qu'on comprenne que la raison pour laquelle il faut qu'il y ait des femmes dans les postes stratégiques des entreprises, c'est parce que il y va de la performance et de la compétitivité des entreprises. Aujourd'hui,
il faut y aller par la contrainte ou l'incitation ou à que ça se fasse. J'y suis favorable, mais après il y a la question de
la loi Copé-Zimmermann a montré qu'avec la contrainte, on avançait plus vite.
Donc il faut un quota.
Donc vous êtes pour des quotas dans les conseils.
Moi je suis. Au début de ma carrière, j'étais contre parce que je ne voulais pas qu'on m'embauche comme une femme ou encore une femme noire, etc. Je ne voulais pas ça. Je détestais les quotas au début de ma carrière. Mais qu'est-ce que dit le Forum économique mondial ? Qu'il va falloir attendre 257 ans au niveau planétaire ou 54 ans en Europe pour arriver à une juste parité entre les femmes et les hommes si on ne légifère pas et si on n'est pas plus dans la sanction.
Donc
c'est quand même dommage d'en arriver là. Et donc, je pense qu'il faut des quotas pour renverser la table.
Quel quota pour justement accélérer le calendrier que vous donnez ?
Eh bien, vous l'avez dit, les parlementaires travaillent là-dessus. Je ne vais pas m'immiscer dans le travail qu'ils sont en train de faire. Moi, mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'avoir 20% de femmes dans les postes des cadres dirigeants. Je veux juste vous rappeler qu'il y a 12 entreprises du CAC 40. Attendez.
Oui.
Il y a 12 entreprises du CAC 40 qui n'ont aucune femme, zéro femme.
Lesquelles ? Dites-nous, mais c'est qui ?
Non,
c'est qui ?
Je ne peux pas vous donner les noms.
Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en vous ne les désignez pas.
Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que j'attendais les résultats de l'index qui doit être publié. Là, les résultats vont sortir demain. Elisabeth Borne va les mentionner. J'ai été dans le monde de l'entreprise. Je sais comment ça se passe. Je ne vais pas vous donner la liste des 12 entreprises, alors même que je n'ai pas encore vérifié s'il y en a encore 12 et que je ne leur ai pas encore
mais
parlé.
Vous avez les chiffres.
Je vais
Elisabeth
leur parler.
Au moment où parlons. Vous
au
avez
moment
les chiffres.
Où nous parlons.
Alors, que disent ces chiffres ?
Je vous dis qu'en 2019, il y avait 12 entreprises du CAC 40 qui n'avaient aucune femme dans le conseil dans le COMEX. Je vous dis qu'il y a 9 entreprises qui ont moins de 10% de femmes qui gagnent, qui sont dans les 10 plus gros salaires. Donc c'est 19 entreprises qui ne respectent pas la loi, qui ne suivent pas cette marche forcée sur l'égalité. Il faut d'abord que je leur parle, que je comprenne pourquoi nous en sommes là. Et si je me rends compte que la volonté n'est absolument pas présente de faire bouger les choses, je reviendrai vous donner la liste avec plaisir.
À la virgule
sur cet index, justement sur les entreprises qui avaient jusqu'au 1er mars, pour rendre compte de l'index entre l'égalité homme-femme. Est-ce que vous voyez quand même une évolution positive ?
Ah oui.
Et comment vous la voyez ?
Eh bien, je vois une évolution parce que vous savez que la note qui doit être atteinte, c'est 75. En 2018, quand on a... 75 sur 100, pardon. C'est 75 sur 100. En 2018, quand on a commencé, on avait à peu près 12, dans les 1000 plus grandes entreprises, on avait, je crois, une quinzaine de pourcents qui n'atteignaient pas les 100. On est à 4% maintenant. Et ça, en 3 ans. parce qu'on a commencé en 2018. Muriel Pénicaud a lancé cet index en 2018. On se rend compte que depuis que les entreprises ont cette responsabilité de publier leurs chiffres, eh bien, on a un taux de réponse 2020 qui est autrement plus élevé que celui que nous avions en 2018. On a 100% des entreprises de plus de 1000 salariés qui publient leurs chiffres et qui nous disent même que pour elles, ce sont des moyens d'attirer de nouveaux talents, qui voient que l'entreprise ne fait pas que du marketing oui. ou de la com en disant « nous, on est une entreprise paritaire ». Et on voit qu'il y a 83% des entreprises entre 250 et 999 qui publient leurs chiffres. Et les entreprises qui ont 50 à 249 salariés ouais. qui ont eu
Attendez, leur... Vous nous perdez dans les chiffres, Elisabeth Borne. Non, mais alors, j'entends. Mais vous dites ça va mieux. Est-ce que demain... Alors, vous ne voulez pas nous donner les chiffres qu'Elisabeth Borne va annoncer demain, donc si je comprends bien, sur RTL. Vous dites ça semble aller mieux. Alors, d'accord. Mais juste, pardon, est-ce qu'il
ça
n'y a pas...
Ça ne semble pas. Ça va vraiment mieux.
Ça va vraiment mieux.
Ça va vraiment
alors,
mieux.
Est-ce qu'il ne doit pas y avoir, Elisabeth Moreno, une exemplarité des politiques? Vous savez combien il y a de femmes dans le cabinet le plus proche d'Emmanuel Macron sur 13 membres de
pas
son
assez.
Cabinet direct? Vous savez combien?
Pas assez.
Mais dites-nous combien.
Il n'y en a pas.
Alors,
vous voulez dire
une.
Le plus proche,
il y a une
vous
femme.
Parlez de Claire Landais.
Tout à fait. Sur 13 membres du cabinet le plus proche d'Emmanuel Macron, Elisabeth Moreno, une femme.
Bah oui. Si on prêche quelque chose d'aussi important, il faut donner l'exemple. Et nous en avons discuté. Vous savez, les femmes, moi je crois fondamentalement que si on veut changer cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans notre pays, il faut donner l'exemple dans toutes les sphères.
Donc qu'est-ce que vous avez dit au président de la République ?
Je lui ai dit, monsieur le président, vous ne donnez pas l'exemple.
Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ?
Je peux garder ça pour moi.
Oui,
vous savez,
c'est sa grande cause.
C'est la grande cause. C'est sa grande cause. Ce que je peux vous dire, est-ce que vous avez vu, au-delà de Valérie Giscard d'Estaing, est-ce que vous avez vu un président sous la Ve République qui se soit saisi de cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes avec autant de force et de vigueur qu'Emmanuel Macron? Dites-le-moi. Je vous écoute. Est-ce que vous avez vu un gouvernement aussi paritaire que celui-ci et avec des... Non, attendez, 51% de femmes dans notre gouvernement et à des postes stratégiques, Florence Parly, Barbara Pompili, Roselyne Bachelot, Elisabeth Borne, enfin, pardon, mais...
une des promesses d'Emmanuel Macron d'avoir une femme premier ministre ou d'avoir une femme à la tête de l'Assemblée nationale. On n'y est pas non plus.
Oui. Je vous laisse poser la question à Emmanuel Macron.
Mais c'est là où vous dites quand même que ça ne va pas assez loin.
Ça ne va pas assez vite. Oui, il faut qu'on aille beaucoup plus loin.
Ça va plus loin. Mais ça va plus vite en entreprise qu'en politique.
Oui, ça va. Oui. Oui,
mais
oui,
à quoi vous
oui ça va plus vite.
Est-ce qu'il n'y a pas les compétences?
Ça va plus vite, mais si on m'avait dit, quand j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans, qu'en 2021, on n'aurait qu'une seule femme qui dirigerait un grand groupe du CAC 40, en l'occurrence Catherine McGregor chez Engie, et qu'il n'y aurait que 4 femmes qui dirigeraient les entreprises du SBF 120, je ne l'aurais pas cru. Aujourd'hui, il y a des femmes qui dirigent des États, il y a des femmes qui dirigent des organisations internationales et qui réussissent merveilleusement bien. Et dans notre pays, on peine à donner de la place aux femmes, le pays des droits de l'homme où les femmes sont parfaitement formées, parfaitement éduquées. Donc bien sûr que ça ne va pas assez vite.
Marion
Mourgue. Je crois que depuis que vous êtes au gouvernement, vous tenez une sorte de carnet d'étonnement où vous marquez ce que vous voyez de différent par rapport au milieu de l'entreprise. Qu'est-ce que vous voyez par exemple par rapport à cette question du machisme ou de la représentation des hommes en politique? Qu'est-ce que vous avez noté dans votre cahier?
Alors là, pour le coup, je peux vous dire qu'il n'y a que des similitudes. Les hommes sont ceux qui vont prendre toute la place. Ce sont eux qui vont généralement décider. Ce sont eux qui vont vous couper la parole quand vous avez envie de dire la même chose.
Y compris à l'Assemblée ou au Conseil des ministres.
Mais vous savez, encore une fois, nous vivons dans une société qui est faite par des hommes, pour des hommes. Les règles de notre société aujourd'hui sont faites par des hommes, pour des hommes. Les femmes doivent en permanence composer avec ces règles-là. C'est pour ça que je me bats, pour qu'il y ait davantage d'équilibre dans les postes décisionnaires, parce que puisque ces décisions-là concernent 52% de la population, eh bien il faut que nous ayons notre mot à dire, que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans la culture, etc.
Alors, dernier mot avant la pause.
Vous disiez tout à l'heure, il y a des femmes qui sont plus misogynes que certains hommes. Est-ce que vous en avez rencontré en politique?
En politique? Non. Non.
Donc pas au Conseil des ministres.
Il y a une exemplarité de solidarité
non,
féminine.
Non, pas dans notre gouvernement. Je ne l'en ai rencontré aucune dans notre gouvernement. J'en ai rencontré dans le monde de l'entreprise.
Bon, eh bien écoutez, on revient sur tous ces thèmes passionnants. Dans un instant, on parlera bien sûr également de la lutte contre les discriminations. À tout de suite après une courte pause.
Bienvenue chez moi. Je suis Amélie Nothomb. Je suis passionnée par les mythes car ce sont à mes yeux des histoires canon.
Audible Original présente La Divine Comédie d'Amélie Nothomb, un voyage mythologique des enfers au paradis.
Descendre aux enfers, puis remonter sur une terre peuplée d'êtres fabuleux, donne souvent aux héros le droit d'entrevoir le paradis.
Écoutez l'intégralité du documentaire La Divine Comédie d'Amélie Nothomb en exclusivité sur l'appli Audible et audible.fr.
En ce moment, chez Opel, pendant les German Days, l'heure est enfin venue de vous offrir l'excellence allemande. Faites l'expérience Opel Corsa, avec son design affirmé, ses innovations utiles et bien entendu sa finition de qualité allemande, à partir de 12 250 euros. Oui, pendant les Opel German Days, l'excellence allemande est à partir de 12 250 euros.
Portes ouvertes du 10 au 17 mars. Prix conseillé Opel Corsa, 1 litre de 75 chevaux sous condition de reprise. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 mars 2021 dans le réseau Opel participant. Détails sur opel.fr. Portes ouvertes selon autorisation.
Le lien entre l'émission Le Jour du Seigneur et votre assurance vie ? A priori, aucun. Et pourtant, vous ne le savez peut-être pas, mais faire du Jour du Seigneur le bénéficiaire de votre contrat est l'un des moyens de nous soutenir durablement. L'opération est simple, gratuite, votre argent reste disponible et vous pouvez même changer d'avis à tout moment. C'est un moyen sûr de vous engager durablement pour le jour du Seigneur.
Pour en savoir plus, écrivez à Marie-Laure, au jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013, Paris.
Sur Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez. Sur une barque,
c'est un super prix.
Lors d'une partie de pêche en mer,
c'est un super prix. Oh oh, ça mord.
Ou même dans le ventre d'une baleine,
c'est vraiment un super prix.
Amazon, des prix bas où vous voulez, quand vous voulez.
RTL, il est 12h30. Nous retrouvons Hortense Crépin pour les informations. Bonjour Hortense.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Il faut qu'on apprenne l'égalité dès le berceau. Déclaration d'Elisabeth Moreno, invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. En cette veille de la Journée internationale des droits des femmes, la ministre, en charge notamment de l'égalité entre les femmes et les hommes, parle d'une hausse de 42% d'intervention des forces de l'ordre pour les violences intrafamiliales lors du premier confinement et ajoute que sur les 46 mesures issues du Grenelle sur les violences conjugales, 60% sont effectives. Le gouvernement sur le front de la vaccination, plus de 450 000 doses injectées ces deux derniers jours. Olivier Véran et Gérald Darmanin ont visité à Boulogne-sur-Mer le nouveau centre de la ville du Pas-de-Calais. Le département a démarré hier le premier de ses quatre week-ends confinés. Dans une tribune dans le journal du dimanche, les sept ordres des professions de santé appellent l'ensemble des soignants à se faire vacciner contre le coronavirus, évoquant un devoir déontologique. Le pape François poursuit sa visite historique en Irak. Il rencontre des fidèles dans une église de Karakoche. Elle avait été brûlée et pillée par Daesh en 2014. Le souverain pontife doit célébrer une messe pour les victimes de la guerre dans le stade d'Erbil cet après-midi. En football, suite des 16e de finale de Coupe de France, à 18h30, Angers affronte le club franciscain Romorantin-Châteaubriand et le GFC Ajaccio accueille Lille. À 21h, Canet, Olympique de Marseille. Rendez-vous dans RTL Foot à 20h. Après, on refait le sport à 19h30. Et puis en cyclisme, départ à 13h de la première étape du Paris-Nice depuis Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines. La météo cet après-midi avec un pays toujours coupé en deux. Du beau temps sec et frais qui va se maintenir sur la moitié nord. Au sud, ce sera plus doux mais plus mitigé avec quelques averses sur le sud du Massif central ou en Corse. Les températures, 8 degrés à Brest, 9 à Paris, 11 à Lyon, 15 à Marseille. Les courses ont lieu à Auteuil. Départ à 13h50. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 7, le 5, le 8, l'As, le 6, le 16, 2, 7, 5, 8, As, 6, 16. La dernière minute, c'est le 8, Diffly, River, Anne. 12h33 sur RTL. Dans un instant, c'est la suite du grand jury RTL Le Figaro LCI présenté par Benjamin Sportouche. Invité aujourd'hui, la ministre Elisabeth Moreno.
Ah, les conditions. Quand petit, vous pouviez aller jouer à condition de ranger votre chambre. Quand on vous disait qu'on réussit dans la vie à condition de bien travailler à l'école. Ou encore quand une offre incroyable est valable à condition de lire les mentions légales. Là, en tout petit. Non, en fait, les conditions, c'est mieux quand il n'y en a pas.
Chez Nissan, oubliez les conditions. En mars, pendant le mois sans conditions, tout le monde peut profiter d'offres exceptionnelles, sans apport et sans aucune condition. Rendez-vous vite en concession.
Nissan.
Offre valable sur véhicules particuliers neufs. Détails nissan.fr.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
T'es chez Lidl ?
Ah, je suis sur les lieux. Et dès demain, le filet de lieu noir MSC est à 1,89€ les 220 grammes au lieu de 2,29€. Moins 17% patron.
1,89€ le filet de lieu noir ? Pas de peau pour nous ?
Oui, sans peau le filet de lieu.
Mais t'arrêtes, oui.
Sans arrêt aussi.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 30 références de produits de la mer. 8,59€ le kilo, pêché en Atlantique Nord-Est. Offre valable jusqu'au mardi 16 mars. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Chez Dacia, on aime ce qui est vraiment utile. Comme des pneus qui vous serviront toute l'année, peu importe les saisons. C'est pourquoi Michelin vous offre jusqu'à 60€ pour l'achat de pneus Michelin Cross Climate pour votre Dacia. Prenez rendez-vous près de chez vous dans l'un de nos 4000 ateliers afin d'en profiter. L'entretien Dacia, des offres vraiment utiles à votre Dacia. Trouvez l'atelier le plus proche et prenez rendez-vous sur dacia.fr. Voir conditions de l'offre sur le site. Dacia respecte les mesures sanitaires.
Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, Elisabeth Moreno. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gimbre de TF1 LCI. Elisabeth Moreno, hier, plusieurs centaines de personnes, en grande majorité des femmes, ont manifesté dans plusieurs villes de France en préambule à la Journée internationale des droits des femmes qui aura lieu demain. L'une de ces manifestations, eh bien, a soulevé quelques interrogations, Adrien Jean.
Oui, par exemple, à Strasbourg, cette manifestation organisée par des femmes pour des femmes ne souhaitait pas accueillir en son sein des hommes. D'ailleurs, il y a un service d'ordre féminin qui est intervenu pour sortir des hommes de la manifestation. Est-ce que ça peut correspondre pour vous à une forme de mobilisation utile et qui vous paraisse correspondre à l'idée que vous vous faites de la lutte pour les droits des femmes ?
Que les femmes se mobilisent et manifestent pour que leurs droits soient enfin reconnus en 2021, je trouve ça sain et normal. Moi, je crois que nous avons besoin d'alliés pour gagner cette bataille. Et je ne suis, j'ai jamais été dans l'exclusion et je ne vais pas commencer maintenant. Je pense que cette question d'égalité entre les femmes et les hommes concerne d'abord les femmes, mais aussi les hommes. Je parlais tout à l'heure d'éducation des jeunes garçons notamment. Et je pense que plus nous aurons d'alliés pour nous accompagner dans cette bataille, plus nous aurons de chances de l'atteindre rapidement, oui, d'atteindre notre objectif.
Est-ce que parfois vous craignez la guerre des sexes ? Michel Onfray s'inquiète de la tyrannie des minorités, alors en élargissant au-delà des femmes. Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez aussi ?
Alors d'abord, les femmes ne sont pas une minorité, puisqu'elles sont 52% de la population mondiale et 52% en France. La tyrannie des minorités, je n'y crois pas, parce que le temps qu'on arrive... vous savez, aujourd'hui, la domination, elle est quand même faite par la majorité. La majorité... Alors, je parle de la majorité de ceux qui ont les pouvoirs. Les pouvoirs, aujourd'hui, sont concentrés à 80% entre les mains des hommes. C'est une vérité. Bon, maintenant... on aurait tout à perdre à rentrer dans une guerre des sexes. Tout à perdre. Moi, j'ai envie qu'on avance main dans la main sur cette question. J'ai envie que les femmes prennent leur destin en main. Et c'est d'ailleurs l'objet de la campagne que nous allons lancer demain. Moi, je crois énormément au rôle modèle. Je crois à l'inspiration. Je crois à la transmission. Et c'est pour ça que j'ai demandé à une centaine de femmes qui ont réussi, des héroïnes du quotidien, connues ou moins connues, je leur ai demandé de raconter leur parcours. Parce que les femmes réussissent dans notre pays. Elles réussissent dans toutes les sphères de la société, mais elles sont totalement invisibilisées. Et je leur ai demandé, pour leur donner justement de la visibilité, je leur ai demandé de raconter leur parcours dans une lettre manuscrite que nous allons remettre aux 1000 petites filles qui vont naître demain pour leur dire que leur avenir sera meilleur.
Elisabeth Moreno, est-ce que des femmes comme Lucille Pétavin, on en parlait tout à l'heure sur le coup de la vérité de notre société, ou alors Alice Coffin, avec son récit, Le génie lesbien, qui, c'est vrai, a fait beaucoup polémique, qui sont dans une forme de radicalité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois cette radicalité vous aide, vous, à vos fonctions ?
Moi, je ne crois pas que la radicalité ou l'extrémisme aide qui que ce soit. Je crois plutôt au dialogue, je crois au travail commun, et c'est à ça que je m'applique. Et c'est pour ça que, si je peux finir là-dessus, demain, nous allons récompenser 18 associations sur toutes les régions de France et 18 femmes qui se battent au quotidien, que ce soit dans le secteur de l'éducation, pour éradiquer les violences faites aux jeunes filles, dans la culture, dans la santé, etc., etc., pour les remercier du travail qu'elles font en faveur de l'égalité. Je vais, avec le Premier ministre, leur remettre une médaille de l'égalité parce que je pense qu'il faut davantage donner de visibilité aux femmes et montrer tout ce qu'elles accomplissent dans l'intérêt de cette cause.
Il y a aussi des questions très concrètes, actuelles, qui se posent.
Sur les rats d'égalité, il y a des formes très différentes. Il y a l'écriture inclusive qui fait beaucoup parler depuis plusieurs années. À votre place, la semaine dernière, Valérie Pécresse disait qu'elle l'avait bannie des documents de la région Île-de-France. Et il y a d'ailleurs des députés au Parlement qui propose de l'interdire pour tous les documents administratifs et personnes morales qui sont chargées des missions de service public parce qu'ils considèrent qu'en réalité ça complexifie plutôt que de servir la cause des femmes. Qu'est-ce que
vous
dites-vous ?
Sur cette question-là, il faut distinguer la philosophie, le concept de l'écriture inclusive et les moyens. Le concept, Monsieur Gindre, si je vous dis les musiciens se levèrent et quittèrent la pièce, vous l'entendez d'une manière. Si je vous dis les musiciens et les musiciennes se levèrent et quittèrent la pièce, vous visibilisez les femmes. Si je vous dis les boulangers se lèvent à 4 heures du matin, et si je vous dis les boulangers et les boulangères se lèvent à 4 heures du matin, le concept, le cerveau intègre ce sujet-là différemment. Ce que je souhaite, c'est que nous donnions de la visibilité aux femmes. Maintenant, sur la question de l'écriture en point médian, j'avoue que pour les personnes qui sont aveugles, pour les personnes qui ont du mal à lire, ça peut complexifier la chose et je peux comprendre qu'on s'interroge là-dessus et qu'on cherche le meilleur moyen d'y arriver. En attendant, l'objectif doit exister parce que sinon, on continuera de dire à des petites filles qu'elles ne peuvent pas être musiciennes et qu'elles ne peuvent pas être boulangères.
Quelle réponse vous y apportez ? Est-ce que votre réponse à cette question sur l'écriture inclusive, c'est qu'il faut s'en passer et procéder, comme vous le disiez, en incluant simplement les femmes dans
les phrases ? Je vais laisser les parlementaires faire leur job, faire leur travail là-dessus. Et je continue de dire que nous devons tous ensemble faire en sorte que les femmes ne soient pas invisibilisées et que nous devons trouver le moyen pour que ce soit le plus simple et le plus accessible pour tous.
Marion
Mais
Bonga.
Vous allez jusqu'à dire qu'à l'école, par exemple, il faut changer la manière de présenter les choses. On nous disait quand on était petit, le masculin l'emporte sur le féminin. Pour vous, il faut une révolution jusque dans l'écriture et dans la présentation des choses.
On le dit toujours, d'ailleurs, je crois.
On est en train de parler d'une révolution culturelle. Pendant des millénaires, le masculin l'a emporté sur le féminin. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir des muscles saillants pour se prendre en main, pour avoir le job qu'on a envie d'avoir, pour faire les métiers qu'on a envie de faire, pour faire les études qu'on a envie de faire.
Et la littérature, il faut aller jusque-là.
Je pense que, vous savez, ce qu'il est important, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. Il ne faut pas complexifier les choses au-delà du nécessaire. En revanche, il faut donner aux femmes et aux jeunes filles la possibilité d'arrêter de dire que 60% d'entre elles n'ont pas confiance en elles. Il faut arrêter de les invisibiliser. Il faut leur donner le pouvoir de prendre leur destin en main. Et ça commence à la maison avec les parents, ça continue à l'école avec les enseignants. Jean-Michel Blanquer et moi, nous avons lancé un audit pour savoir si l'éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est dans les programmes, est bien enseignée, parce que c'est comme ça que nous y arriverons. Beaucoup d'entreprises me disent « Mais moi, je veux bien embaucher des femmes, mais je ne trouve pas de femmes ingénieures. » C'est vrai qu'il n'y a pas assez de femmes dans les technologies. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de femmes dans les métiers scientifiques. Et ce sont les métiers
aussi
de demain.
Est-ce qu'il faut mettre
je pense
quotas
que si on mettait des quotas dans les jurys, ne serait-ce que pour accueillir et sélectionner les candidats, on aurait probablement davantage de jeunes filles, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas encore assez, notamment dans les grandes écoles.
Alors,
et Frédéric Vidal, là-dessus, est volontaire.
Vous aurez nommé tous vos collègues, donc il n'y aura aucun jaloux.
Mais non, nomme les personnes qui sont volontaires et qui m'aident à faire avancer cette cause.
Et vous êtes en charge, dans votre portefeuille qui est très large, de la lutte contre les discriminations en général, et pas uniquement entre hommes et femmes. Et vous avez lancé, le vendredi 12 février, avec la Défenseure des droits, la plateforme anti-discrimination. .fr. Quasiment un mois plus tard, 39-28, un mois plus tard, où en est-on ? Combien de signalements avez-vous eu, Elisabeth Moreno ? Et quels sont les motifs de discrimination les plus importants qui vous sont signalés ?
Alors, avant le lancement de cette plateforme avec le Défenseur des droits, que le Président de la République a souhaité parce qu'il a eu connaissance de toutes les discriminations, pour que vous sachiez, il y a 25 causes de discrimination prohibées dans notre pays. Mmh. Et il n'y avait pas de service public jusque maintenant qui se saisissait de la globalité de ces problématiques, à la fois avec les associations, à la fois avec les services de l'État, pour faire en sorte que cette impunité cesse sur les discriminations. Et donc nous avons lancé cette plateforme il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, et il y a eu, malheureusement, si je puis dire, eh bien malheureusement cette plateforme fonctionne. Il y a 9000 personnes en à peine 15 jours qui ont contacté cette plateforme. On a 200 appels par jour, dont la majorité émane de personnes de moins de 30 ans. Le défenseur des droits, Claire Hédon, me le disait, avant cette plateforme, c'était 10 appels par jour, 10 contacts par jour. On est à 200 aujourd'hui. On sait que les périodes de crise sont des périodes propices à l'explosion des inégalités. Alors peut-être que ça s'explique. Les 3 causes principales qui sont remontées chez le défenseur des droits, eh bien, c'est la discrimination à l'emploi, la discrimination au logement ou la discrimination contre le handicap. Eh bien, on ne peut pas, quand on est un jeune aujourd'hui de moins de 30 ans, grandir ou rentrer dans la vie professionnelle en se disant qu'on n'aura pas les mêmes chances d'avoir accès à un emploi que quelqu'un d'autre. Ça n'est pas possible. Il faut avoir des perspectives d'avenir. Et lutter contre les discriminations, c'est d'abord rappeler la loi, mais c'est aussi dire aux personnes qui sont victimes de discrimination et qui sont touchées dans leur dignité qu'elles ne sont pas seules et que des juristes et des avocats et des personnes qui sont formées peuvent les aider et les accompagner.
C'est aussi une question d'outils. Vous y faites allusion à l'instant. Vous avez évoqué un index diversité. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce qu'il verra le jour et comment il va fonctionner? Parce que sachant qu'on est dans un pays qui ne fait pas de statistiques ethniques, on a du mal à comprendre comment est-ce qu'on va représenter la diversité de manière fidèle par rapport à la société.
Alors, lorsque j'étais chef d'entreprise et que je discutais de ce sujet avec mes collègues, ils me disaient, bien sûr que le sujet est important, on sait bien qu'on a besoin de recruter des personnes issues de la diversité, pas parce qu'elles sont issues de la diversité, parce qu'on a une pénurie de talents dans certains secteurs, parce que certains secteurs comme le bâtiment, comme la tech sont en tension, et on a besoin d'élargir notre manière de recruter, mais aujourd'hui, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, je me suis dit, forte de cette expérience, je me suis dit qu'il était nécessaire de créer un outil qui est sur la base totalement du volontariat et de l'anonymat.
Pourquoi le volontariat?
Un outil, le volontariat, et je vais y venir. D'abord, je vous dis ce à quoi va servir cet outil. C'est un outil qui va faire un diagnostic, prendre une photo à l'instant T du niveau d'inclusion qu'il y a dans les recrutements, dans les entreprises, dans les mobilités de carrière, etc.
Donc,
etc.
Au sein d'une entreprise, faire une photocopie, une radiographie de ce qui se passe.
Une radiographie de la manière dont les choses se passent. Cette radiographie, elle va être mise entre les mains du dirigeant, des directions des ressources humaines et des managers pour leur permettre de comprendre, parce que parfois il y a des biais qui sont totalement inconscients. Il s'agit de leur montrer que même s'ils croient qu'ils sont inclusifs dans leur manière de recruter, ça n'est pas le cas. Et on va demander à une structure tierce de les accompagner dans leur méthode de recrutement, parce qu'il s'agit d'une question de recrutement. On recrute aujourd'hui en 2021 comme on recrutait en 1980.
Ça n'est plus adapté.
Pour faire des changements et mettre en place des actions correctives.
Oui, mais c'est sur le volontariat, sur la base du volontariat.
Pourquoi c'est sur la base du volontariat? Pourquoi c'est sur la base du volontariat? Parce que si moi je suis, j'ai vécu ces sujets-là, et je vais vous dire comment ça va se passer si on force les choses. Ce qui va se passer si je suis recrutée parce que je suis une femme noire, quand je vais rentrer dans l'entreprise, on va me mettre dans un coin et on va me dire « tu es recrutée parce que tu es une femme noire ». Ça ne m'aide pas et ça n'aide pas l'entreprise. Si nous formons à la discrimination, si nous sensibilisons, si nous expliquons et qu'on lève le voile sur ces préjugés, sur ces biais, sur ces stéréotypes qui ont la dent dure, nous espérons que les personnes
Elisabeth
vont
Morino,
comprendre
qu'il
faut aller plus vite.
On a mis des quotas pour imposer les femmes.
Et sinon, on progresse. C'était...
Mais oui,
et
alors bah justement, alors pourquoi
regardez, on a beaucoup plus de femmes mères aujourd'hui qu'on en avait à l'époque.
Quand on laisse les choses facultativement, elles ne se font pas.
Alors, je
et d'ailleurs, vous voulez le faire dans les comités de direction.
Je pense qu'on est dans un moment extrêmement difficile aujourd'hui. On subit une crise économique violente. Les entreprises sont en train de se réajuster. Les entreprises comprennent qu'elles ont besoin de diversifier leurs méthodes de recrutement. Moi, je crois à l'intelligence collective. Je viens de ce monde-là. Et je pense et j'espère qu'ils auront... Ils et elles auront l'intelligence de comprendre que la diversité, elle est partout dans notre société et que le talent n'a ni origine, ni culture. Il faut pour un enfant issue d'une famille ouvrière, 6 générations aujourd'hui, pour parvenir à ces responsabilités de CSP+.
C'est pour ça que Marlène Schiappa était pour des statistiques ethniques. Elle l'avait dit à ce micro il y a 2 ans.
Mais les statistiques ethniques ne sont pas possibles dans notre pays. Ce que nous allons faire, c'est demander aux personnes de s'exprimer. On ne va pas, ce n'est pas le chef d'entreprise ou les directions des ressources humaines qui vont comptabiliser les personnes. Ce sont les personnes elles-mêmes qui vont parler de la manière dont on les perçoit. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons...
Il nous reste 10 minutes, hein, vous avez encore beaucoup de choses.
Sur la lutte contre les discriminations, est-ce que vous allez jusqu'à reprendre l'idée de la défenseure des droits qui disait qu'il pouvait y avoir des zones sans contrôle d'identité pour lutter contre ces discriminations?
Non. Claire Hédon faisait référence à des expérimentations qui ont eu lieu en Allemagne et en Espagne notamment, mais l'Allemagne et l'Espagne ne fonctionnent pas de la même manière que la France. Et on ne peut pas, dans un moment où les gens sont tellement préoccupés par la sécurité, dire qu'il va y avoir des zones où on ne contrôlera pas. Je pense que ce serait contre-productif.
Alors, on en vient à Question Express, c'est le pour ou contre du grand jury.
Le grand jury, Question Express.
Pour ou contre, Elisabeth Moreno, la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon?
Pourquoi ça vous fait rire?
Ça vous fait rire, mais c'est parce que le sujet est délicat.
Est-ce que ça me fait sourire parce que Napoléon était l'un des plus grands misogynes que j'ai jamais lu, et il a rétabli l'esclavage, et en même temps c'est un grand homme de l'histoire française. Donc je passe. Je ne sais pas. Ah. Je ne sais pas.
Mais vous avez l'impression de pencher plutôt pour le contre et vous n'osez pas le dire, c'est ce qu'on
ressent. Non, mais je ne sais pas. Mais parce que, vous savez, l'histoire, ce n'est pas aussi simple. La vie n'est pas toute noire ou toute blanche. Il y a toute
une
palette de couleurs dedans.
Si Emmanuel Macron célèbre ce bicentenaire-là, vous vous associerez de bonne grâce aux célébrations?
Alors, de bonne grâce, il ne faut peut-être pas exagérer, mais je fais partie du gouvernement, donc je m'associe à ce que fait le gouvernement. Mais je vous dis, c'est vraiment... ça n'est pas une question simple et je ne sais pas... il faudrait que j'aie un peu plus de temps pour y réfléchir.
On vous le laissera, puis vous viendrez nous le dire, puis on le saura d'ici là, puisque ça arrive très vite. Pour ou contre, Elisabeth Moreno, la GPA, les mères porteuses, à titre personnel?
Alors, à titre personnel, je suis, pour avoir discuté avec des personnes qui ont eu accès à la GPA à l'étranger, et je pense à Jarry, qui m'a raconté une histoire qui m'a ouvert les yeux sur ce qu'est la GPA, j'y suis favorable, mais de manière très encadrée.
Donc vous voulez, en fait, qu'on puisse, en France, accéder à la GPA, mais avec...
favorable de manière très encadrée.
Et est-ce que vous souhaitez que le président de la République, s'il se présente pour un second mandat, mette ce sujet sur la table en 2022?
Je ne vais pas dire au président de la République ce qu'il doit mettre sur la table, mais
lui avez dit déjà qu'il devait mettre plus de femmes autour de lui.
Non, mais ça c'est une évidence.
Bon, pour ou contre justement une femme Premier ministre d'ici la fin du quinquennat?
Je suis pour, mais Jean Castex fait un travail remarquable et je l'aime beaucoup. Mais la fin du quinquennat, ça nous laisse 1 an.
Oui, pourquoi ça pas. Mais vous ne trouvez pas ça incroyable qu'il n'y ait eu qu'une seule femme ministre?
Mais bien sûr que c'est incroyable, c'est insupportable, c'est intolérable. Bien sûr que ce serait merveilleux que nous ayons une femme Premier ministre.
Vous dites que ça aurait été de la discrimination positive? Il y a bien des femmes qui sont capables d'être Premier ministre.
Laissez-moi dire un mot sur cette question de discrimination positive que l'on dit toujours du bout des lèvres. Les discriminations positives, c'est aussi une manière de reconnaître la méritocratie dans notre pays. On discrimine. Pourquoi je dis qu'il faudrait nommer plus de femmes et qu'il faudrait utiliser les quotas? Parce que les femmes peuvent être méritantes, elles peuvent être talentueuses, mais on ne les laisse pas arriver au poste qu'elles méritent. Donc parfois, la discrimination positive a du bon.
Pour ou contre, enfin, le Front républicain contre le Front national en toutes circonstances?
Moi, je suis bien consciente qu'il y a beaucoup de personnes qui votent pour le Front National et il faut l'entendre et il faut le respecter. Ne me demandez pas de me prononcer en faveur du Rassemblement National. Bien sûr qu'il faut faire en sorte que les personnes qui ne croient plus dans les valeurs de liberté, d'égalité, qui sont au cœur de notre pacte républicain et de fraternité, trouvent leur compte et qu'elles n'aient pas à se tourner vers des extrémistes.
Sujet,
pourtant, Stanislas Guérini, à la tête de En Marche, laissait entendre que ça pouvait être au cas par cas pour les régionales, le Front Républicain, en fonction des régions et des situations locales. Est-ce que ça vous semble pertinent ou très dangereux?
Moi, je crois qu'il faut faire tout ce qui gardera notre pays uni. Je crois qu'il est fondamental, en des périodes aussi difficiles et complexes que nous traversons, que nous restions solidaires et unis. Nous sommes Français, nous aimons notre pays et nous devons tous nous battre ensemble pour le garder uni. Et ça n'est pas en saluant le chiffon rouge de l'immigration et en disant qu'on va renvoyer chez eux les immigrés jusqu'à la troisième génération qu'on y arrivera. Nous sommes une France plurielle, nous devons accepter notre histoire telle qu'elle est et avancer ensemble.
Mais est-ce que comme Christophe Castaner, vous voteriez pour Jean-Luc Mélenchon pour faire barrage à Marine Le Pen si la situation se présentait ?
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'elle est une ennemie de la République, comme l'a dit Christophe Castaner ?
Non. Je ne sais pas si c'est... Elle est, on ne peut pas dire... Non, je ne peux pas dire... À titre personnel, je ne peux pas dire que c'est une ennemie de la République. Le Rassemblement national est un parti reconnu dans notre pays. Des personnes votent pour le Rassemblement national. Je ne peux pas dire qu'elle est une ennemie de la République. En revanche, je pense qu'elle est une ennemie des valeurs républicaines.
Et est-ce que la France est prête et mûre pour une femme présidente de la République ?
Oui, ça j'en suis convaincue.
Mais quand Marine Le Pen dit ça, donc elle est à juste titre, elle s'est justifiée. Elle dit que la France peut élire une femme.
Ah non, mais bien sûr que la France peut élire une femme. Est-ce que la France doit élire Marine Le Pen ? Non.
Et quelles leçons vous tirez du fait que la seule femme qui puisse atteindre cette fonction aujourd'hui, ce soit la présidente du Rassemblement National, et que les autres partis n'aient pas pu, pour pouvoir une femme ?
Parce que Marine Le Pen surfe sur ce que son père a construit, et que le Front National aujourd'hui... et sur des sujets qui sont les sujets d'immigration, les sujets de sécurité, et que ce sont des sujets qu'il porte avec lui depuis des millénaires, et que ça n'est pas parce qu'on change une lettre entre le Front National et le Rassemblement National que ça change les valeurs qu'il porte.
Question nette.
Le grand jury. Question nette.
Bonjour Marie-Pierre Adan.
Bonjour à tous. Bonjour Elisabeth Moreno. Alors bonjour. Cette semaine, on a fêté les 30 ans de la mort de Serge Gainsbourg. Il y a eu plusieurs personnalités politiques qui lui ont rendu hommage sur Twitter, dont le maire de Béziers, Robert Ménard. Je vous lis son tweet. Il estime que l'immense talent de Serge Gainsbourg n'aurait sans doute pas pu éclore en notre époque de féministe glaciale. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez ça ?
Eh bien, je réponds à M. Ménard que si une femme sur deux, si une femme qui meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint, des jeunes filles qui n'ont pas d'espoir de carrière parce qu'on leur dit que ça n'est pas fait pour elles, s'ils considèrent que c'est un féminisme glacial que de vouloir défendre l'égalité entre les femmes et les hommes et faire en sorte que les femmes soient traitées comme n'importe quel être humain sur notre terre, c'est faire un féminisme glacial, il n'a rien compris.
C'est irresponsable comme propos de sa part ?
C'est irresponsable.
Autre question.
Oui, alors ça concerne le président du Centre National du Cinéma, Dominique Boutonnat. Il est mis en examen pour agression sexuelle et tentative de viol. Mais cette semaine, il a été récompensé du Trophée d'honneur 2021 par un hebdomadaire qui est très reconnu dans le monde du cinéma, qui s'appelle Le Film Français. Est-ce que cette remise de prix, elle vous dérange ?
Moi, je veux d'abord saluer la libération de la parole sur ces sujets, que ce soit MeToo, MeToo gay, MeToo inceste. Je veux saluer le courage de ces personnes qui s'expriment et je veux leur dire que non seulement nous les écoutons, mais nous les croyons et que nous les accompagnons.
Et vous comprenez qu'elles prennent mal justement ce genre de distinction.
Et je peux comprendre que cela dérange. Je ne vais certainement pas me prononcer sur les questions qui appartiennent à la justice, mais je peux comprendre que cela puisse déranger.
Autre question.
Alors hier, sur le compte Twitter officiel de la police nationale, ils ont été obligés de supprimer un tweet parce qu'il y a eu un réel tollé sur les réseaux sociaux. C'était un tweet de prévention contre le sexting. Alors c'est le fait d'envoyer des photos dénudées à quelqu'un. Sauf que ce message est très culpabilisant pour les victimes. Donc on rappelle, ce qui est puni par la loi, ce n'est pas le fait d'envoyer des photos dénudées, mais c'est le fait de les diffuser sans accord de la personne. Et ça ne figurait pas du coup dans le message. La police a évoqué une maladresse. Même si ce tweet a été retiré, est-ce que ça pose problème d'après vous ?
Eh bien, c'est malheureusement peut-être c'est peut-être ce que M. Ménard appellera le féminisme glaçant. Je pense que ce tweet partait d'une bonne intention, mais qu'il a été extrêmement maladroit. Le sexisme fait qu'aujourd'hui, on va culpabiliser les femmes qui sont violées sur la manière dont elles étaient habillées, plutôt que d'aller chercher le coupable et le punir. C'est ça le problème de ce tweet. C'est très bien qu'il l'ait supprimé, qu'ils aient accepté que c'était effectivement une maladresse. Il eût fallu dire, si vous dévoilez une photo de nude, vous êtes passible de X années de prison.
Un an d'emprisonnement, 45 000 euros.
Un an d'emprisonnement, absolument, et 45 000 euros d'amende.
Oui, le Festival international du film de Berlin a remis pour la première fois des prix qui ne sont pas genrés, donc qui ne tiennent pas compte du sexe des acteurs. Dans une semaine, il y a la cérémonie des Césars qui va avoir lieu. Est-ce qu'il faut, selon vous, arrêter des distinctions du type meilleur acteur, meilleure actrice, et avoir une catégorie commune?
Oui, moi, je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas dans les extrémismes. Mmh. Il faut être le plus
ouvert
possible.
C'est une forme d'extrémisme pour vous de faire ça?
Ouais. Non, ce n'est pas une forme d'extrémisme, mais ce qui fait peur à certaines personnes, c'est quand on a l'impression que l'on va trop loin. Il faut faire de la pédagogie et expliquer pourquoi il faut donner de la visibilité aux femmes.
Une question en 10 secondes de Marion Mourgue.
Est-ce que vous continuez la politique en 2022 et pourquoi pas candidate à Matignon après alors?
Je n'en sais rien.
Même pour la politique pas en 2022.
Je n'en sais rien. Je suis venue porter une mission qui est toute ma vie, l'égalité entre les femmes et les hommes, la promotion de la diversité et l'égalité des chances. Ensuite, je verrai ce que la vie me réserve.
Merci beaucoup Elisabeth Moreno, merci à tous de nous avoir suivis, merci à tous les trois. Merci. Très bon dimanche, très belle semaine, à la semaine prochaine.